Abel Hugo, l'heure de la mort. En exergue, la prévoyance est inhabile à reculer l'heure immobile que marque la fatalité. Alfred de Vigny. Au milieu des montagnes désertes qui séparent le royaume de Valence des plaines de la Nouvelle-Castille, s'élève le monastère de Cienfuegos. Chassé par la guerre de l'invasion, loin de ses cloîtres dévastés, les moines avaient abandonné leurs cellules paisibles. L'herbe des champs croissait dans l'église. L'autel était dépouillé de ses ornements sacrés et, seul au milieu de la ruine générale et de la désolation du lieu saint, y était resté debout un grand Christ en marbre noir. Le régiment de hussards où servait Albert campait autour du couvent. Le jeune officier avait établi son bivouac devant le porche ruiné de l'église. C'était la nuit. Les étoiles scintillaient dans le sombre azur, comme des paillettes d'or sur la robe noire d'une veuve de Séville. La lune glissait lentement sur le ciel et montrait son croissant pâle, semblable à l'arc courbé du Sagittaire. Albert, étendu auprès du feu à moitié éteint de son bivouac, était enveloppé dans son large manteau. Sa tête fatiguée reposait sur la selle de son cheval. Déjà il n'entendait plus que le cri aigu du grillon, les heurtements des chevaux attachés au piquet du camp, et à de longs intervalles, le cri de veille des vedettes. Les heures s'écoulaient. Il pensait à son amante, à cette jeune fiancée promise à sa constance au retour des expéditions guerrières. À cette Éléonore au doux sourire, aux yeux bleus et à la longue chevelure blonde, que n'avait pu remplacer dans son cœur ni la superbe beauté des femmes de Rome, ni les grâces piquantes des femmes de Grenade. En rêvant à l'amour et à la France, il commençait à s'endormir quand le vent de la mer, poussant avec rapidité de gros nuages chargés de pluie, amena la tempête sur les bivouacs français. Albert se leva et, cherchant un abri contre l'eau qui tombait par torrents, il vit la porte de l'église entrouverte. Il y entra. L'église était sombre et humide. Les rapides éclairs qui traversaient les vitraux coloriés éclairaient seuls les tombes de pierre des anciens chevaliers et l'autel profané du Christ. Le jeune guerrier ne put, en se voyant solitaire dans ce triste lieu, se défendre d'un mouvement de terreur que la raison ne peut empêcher les sens de percevoir. Il s'avança dans la nef dont le silence n'était troublé que par le bruit retentissant de ses pas et par le cliquetis des éperons dont ses bottes étaient armées. Une horloge sonna l'heure. Albert écouta en frissonnant. 12 coups tombèrent lentement sur le timbre argentin. Alors la porte de la sacristie s'ouvrit en criant sur ses gonds. Un prêtre, vêtu d'une chasuble noire décorée d'une croix d'argent, s'avança, portant le Saint-Ciboire et l'hostie consacrée. Il marchait légèrement. Ses pas rasaient les dalles de pierre sans réveiller l'écho du monument sonore. Après avoir posé le calice sur l'autel, il se tourna vers le lieu où était Albert et sembla l'inviter à s'approcher. Celui-ci, poussé par un mouvement inconnu, s'avança et, s'agenouillant sur les degrés de l'autel, il entendit la voix grave de l'homme de Dieu qui récitait l'office des morts. Les souvenirs de sa jeunesse rappelèrent sa piété. Il répondit comme aurait fait le cortège des diacres et des sous-diacres. Quand la messe fut achevée, le prêtre prononça les paroles d'adieu au milieu de l'église vide de fidèles. Puis, s'adressant à l'officier, il lui dit « Jeune étranger, le pieux service que tu viens de me rendre a fait sortir mon âme du purgatoire. J'expiais depuis 2 siècles, par cette nocturne pénitence, une faute commise contre la règle sévère de ce monastère. Depuis 2 siècles, j'attends des secours d'un mortel pour achever le saint sacrifice. L'heure sonnait chaque nuit, et depuis 2 siècles, nul être humain ne s'était présenté. Seul tu es venu, agenouillé près de l'autel du Dieu qui pardonne. Tu as aidé mon ange gardien à détacher les liens qui enchaînaient encore mon âme et l'empêchaient de remonter au céleste séjour. Ta piété sera récompensée. Interroge-moi, je puis te dire une chose, une seule. Demande-moi celle que tu désires savoir. Je vais te répondre. » Albert tressaillit, puis, reprenant courage, l'homme désire toujours connaître ce qu'il serait heureux d'ignorer. « Mon père, dit-il, apprenez-moi quel terme est fixé à ma vie. » « Mon fils, répondit le prêtre d'une voix douce et triste, que m'as-tu demandé ? Tu le veux, apprends-le donc. Dans 3 ans, à pareil jour, à l'heure où le soleil dardera son premier rayon sur la terre, ton âme rendra ton corps au néant. » Après ces mots, le vieillard disparut sans bruit et sans laisser aucune trace qui indiquât s'il était rentré dans la tombe ou s'il était monté dans le ciel. Albert sortit de l'église, le cœur rempli d'une sombre mélancolie. Car, dorénavant, les espérances de sa jeunesse devaient mourir au bord d'un cercle étroit. Il suivit ses compagnons d'armes. Il se montra dans les combats plus intrépides peut-être qu'il ne s'était jamais montré. Mais sans cette bravoure téméraire qui fait mépriser la mort. Son cœur était rempli d'un dédain amer pour sa vie, dont le terme, fixé d'avance, et connu de lui, ne pouvait être ni approché, ni reculé. La paix le ramena dans sa patrie. Il revit cette Éléonore qu'il avait tant aimée au jour d'une ignorance profonde et d'un vaste espoir. Le père de la jeune fille lui rappela qu'elle était son amante. Elle-même rougit et lui rappela qu'elle était sa fiancée. La propre mère d'Albert, sa vieille mère, qui espérait réjouir ses yeux mourants par le spectacle du bonheur de son fils unique, lui rappela aussi les premiers amours et les premiers désirs de sa jeunesse. Il demeura indifférent à l'amitié d'un père, à l'amour d'une amante, à la tendresse d'une mère. L'œil fixé sur cette heure immobile vers laquelle il était chaque jour de plus en plus entraîné. Enfin, 2 ans après la nuit fatale, le désespoir dans le cœur, il se laissa conduire à l'église et, devant l'autel, il jura à son Éléonore une foi éternelle. Il prononça en hésitant ce serment. Qu'il savait devoir être brisé par la mort avant la fin même de l'année. Alors on crut, parmi les hommes, que le bonheur devait habiter dans son cœur. Ce cœur était rempli d'amertume, et pourtant Albert était arrivé, par sa valeur au premier grade militaire. Les richesses de sa bonne mère étaient devenues les siennes. Il possédait la femme qu'il avait aimée avec passion. Tout semblait s'être réuni pour sa félicité. Ce qui comble de joie les époux vint encore ajouter à son désespoir. Éléonore devint enceinte. Il vit naître son fils qu'il ne devait pas voir grandir. Et alors il ne put supporter ce bonheur nouveau qui mettait le comble à son infortune. Après avoir longtemps supporté, sans en rien faire paraître, la douleur qui brisait son âme, il ne conserva pas plus longtemps cette trompeuse sécurité. Sa mère s'aperçut la première de sa peine cachée. Sa jeune épouse ne tarda pas à en être instruite. Mais il sut, malgré leurs touchantes sollicitations, conserver dans son cœur le secret terrible qui avait empoisonné le bonheur de sa vie. Un mois lui restait encore pour aimer sa famille et pour veiller à ses destins quand il serait éternellement séparé d'elle. Sa prudence prévoyante établit l'ordre dans ses affaires et, débarrassé des inquiétudes matérielles du monde, résigné à son sort, il attendit l'heure marquée avec une indifférence stoïque. La certitude de sa mort prochaine rendait la tranquillité à son âme, comme aurait fait un malheur longtemps redouté et arrivé enfin. Le mois s'écoula, le dernier soleil se coucha pour Albert. Alors, rassemblant toutes ses forces, il appela sa mère et sa femme, il leur confia le secret fatal, puis il se prépara à mourir. Une large terrasse exposée à l'Orient s'étendait devant sa maison. C'est là qu'il fit porter un lit de repos sur lequel il s'assit, entre sa vieille mère qui allait perdre son jeune fils et sa faible épouse à laquelle allait manquer un appui. Que leurs adieux furent tristes, que cette dernière nuit leur semblait tour à tour longue et courte, selon qu'ils étaient agités par la crainte ou par l'espérance. Les yeux d'Albert virent remonter, puis descendre dans les cieux, le croissant pâle de la lune qu'il avait admiré 3 ans auparavant, pendant cette nuit orageuse passée dans le couvent sur les montagnes de Valence. Cependant l'horizon s'enflamma des feux de l'aurore. Le chant des oiseaux, le cri argentin du coq, annoncèrent au malheureux Albert la renaissance de la nature. Et il allait mourir. Son heure arriva. Un rayon parti de l'Orient sillonna le ciel et sembla y tracer une route lumineuse et divine pour l'âme qui abandonnait la terre. Alors ses yeux se fermèrent avec un mouvement convulsif. Un léger frisson parcourut lentement ses membres refroidis. Le son des trompettes bruyantes se fit entendre. Puis un murmure confus et une bouche sonore qui appela à haute voix « Albert ! Albert !» Albert ouvrit les yeux. Il était au milieu d'une riante campagne, éclairé des premiers feux du soleil levant, couché encore auprès du foyer éteint du bivouac de la veille. Les trompettes de son régiment sonnaient l'air éclatant du réveil de Diane, et la voix amicale d'Alfred lui demandait avec intérêt « Albert, comment as-tu passé la nuit ?» Le jeune officier se leva avec peine, encore tout fatigué des songes de la nuit. Il pressa avec reconnaissance dans sa main glacée la main de son ami. Mais son cœur demeura quelque temps rempli tout à la fois de joie et de tristesse. Car s'il avait recouvré les espérances de la vie, il avait perdu, à son réveil, une épouse et un fils adorés.